Mardi 22 juin 2010. Les récepteurs à ocytocine.
Je ferme l'école ce soir?
Gaëlle a le cynisme tendre.
Il ironise sans reproche.
Ses plaintes sont des caresses. Et si j'avais encore eu besoin qu'il ferme la classe ce soir, il m'aurait crié avec douceur que j'exagère un peu. Mais il l'aurait fait.
Tout guimauve qu'il est.
Il reste gentil et serviable avec moi, même si je le sens depuis quelque temps plus enclin à la mélancolie. Il ne m'avait pas habitué à cela. Et j'ai l'impression de passer à côté de lui à cause de mon quotidien un peu perturbé depuis une bonne semaine. Gaëlle me manque vite. Il suffit de peu pour qu'il me manque. Alors quand je sens que quelque chose ne va pas, me vient la crainte de lui manquer, moi, de ne pas être là quand il en a besoin. Non, je suis disponible ce soir, je veux bien qu'on ferme ensemble et qu'on prenne le temps de le faire. Je suis sûre que tu as des choses à me dire.
Je suis un livre ouvert, hein?
Et quelques pages sont écornées, je crois.
J'écorne celles que je vais devoir arracher. Il sera plus facile de les retrouver le moment venu. Ça ira plus vite. Ça fait beaucoup plus mal, mais moins longtemps.
Je sens qu'elle va être longue à fermer l'école ce soir.
Tu as ton sac de couchage?
Personne ne m'attend à la maison.
T'es sûre?
On m'espère peut-être, mais on ne m'attend pas.
Par contre, moi si, Geneviève finirait par s'inquiéter. Déjà qu'elle s'inquiète de tes pages écornées.
Même si je les cache, ce sont celles qu'on voit en premier, tu sais bien.
La journée était agréable, les enfants assez calmes. Le mois de juin les voit à la fois fatigués par la fin d'année et la tête déjà dans les vacances d'été. J'ai pourtant encore beaucoup de leçons à faire avec eux si je veux respecter le programme. Et j'ai du travail en perspective pour mon mercredi, avec les corrections, la préparation pour la fin de semaine et les bulletins qui s'ajoutent à tout cela.
Je ne suis pas couchée.
Anna Nina est rayonnante. Elle est vive, intéressée, curieuse, solidaire et généreuse. Les autres enfants l'ont adoptée plus vite que je ne l'espérais. Ils ne se posent aucune question, n'ont aucun a priori. Ne s'inquiète de savoir ni d'où elle vient, ni pourquoi, ni comment, ni quand elle repartira. Ils sont dans l'ici et maintenant de Sylvie, et ils ont bien raison. La journée, je la regarde évoluer dans la classe avec une aisance inattendue, et je me demande comment elle pourra retourner dans l'étroitesse de sa roulotte, même si leur liberté est vaste. J'ai l'impression d'avoir mis son père face à un état de fait qu'il n'avait pas envisagé. Mais quand je vois la petite s'épanouir ainsi, je me dis qu'il ne pouvait pas en être autrement. On ne sauve pas le monde, mais on peut parfois sauver quelques personnes de leur destin quand on sent qu'il est mal engagé.
Qui te dit qu'il était mal engagé, son destin, à cette gamine?
Tu n'es pas obligé de toujours me contredire, Gaëlle, tu sais. Il n'empêche, qui te dit qu'elle n'aurait pas poussé droit quand même et qu'elle ne se serait pas épanouie malgré tout? D'ailleurs, qui te dit qu'ils ne vont pas repartir dans une semaine et que tu ne les reverras jamais?
Rien.
Et tu vas souffrir.
Comment veux-tu que je n'en souffre pas?
Tu tends la main à quelqu'un et il la lâche volontairement.
Quand tu tends la main à quelqu'un, t'es pas obligé de rester accroché.
Et si tu lui tends la main le temps qu'il sorte de l'eau, il peut la lâcher quand il est sur la rive, non?
Ça dépend où elle arrive pour eux.
C'est peut-être juste la roulotte réparée. Ce n'est pas forcément toi, leur rive, ni l'école.
Et toi, tu es où?
Sur la rive? Dans l'eau?
Dans les sables mouvants.
Je suis large, mais je m'enfonce quand même.
Tu veux mon autre main?
Et ta neuf? Peu servi.
Je veux surtout arrêter de souffrir.
Mais pourquoi tu souffres?
Parce qu'elle s'éloigne, sans m'expliquer.
Je ne sais pas ce que j'ai fait pour ça. Je me sens rejetée.
Votre relation n'est peut-être pas simple pour elle?
Elle n'est pas simple pour moi non plus. J'y arrive pourtant.
Et si elle n'y arrive pas à elle?
Elle y arrivait avant.
Et si elle ne veut plus?
Qu'elle me le dise alors.
Peut-être a-t-elle peur de te faire de la peine.
Mais le silence fait encore plus mal.
Tu sais, certains adultes ont gardé cette part d'enfance qui leur faisait croire, petits, qu'en se cachant derrière un pot de yaourt, on ne les voyait pas, sous prétexte qu'ils ne voyaient pas les autres.
C'est débile pour un adulte, surtout quand tu vois que l'autre souffre.
Tu ne le vois pas.
Tu es caché derrière le pot de yaourt.
Protège-toi. prendre la distance. Ça fait mal, rien que d'imaginer qu'elle puisse ne plus être dans ma vie au quotidien. Ça tiraille, mais ça ne déchire pas. Dans ta vie, il y a ta femme. Reviens vers elle. J'essaie. Je l'aime. Je ne veux pas la faire souffrir. Mais j'ai l'impression d'un vide à l'intérieur de moi qui aspire tout vers le noir. Le noir tout noir est rare. On finit bien par distinguer à nouveau quelques lueurs quand les yeux s'habituent. Tu dois avoir envie de me mettre un coup de pied au derrière, non? Tous ces kilos de virilité qui pleurent bêtement pour une fille. Je t'avoue que oui, mais je te comprends, sinon je ne serais pas ta meilleure amie. Et puis en l'absence de sensibilité, la virilité seule n'a rien d'une qualité chez un homme. A suivi une longue étreinte. Il paraît qu'il faut plus de 20 secondes pour que les récepteurs à ocytocine, cette hormone qui fait du bien, commencent à fonctionner. Nous avons compté large pour ne prendre aucun risque de les louper. Avec Gaëlle, on peut se prendre dans les bras plusieurs minutes sans que cela ne soit ni suspect ni lassant. J'ai senti quelques soubresauts de sanglots. Il faut bien que ça sorte. Je lui avais dit que mon épaule serait là. Je ne pensais pas qu'il en aurait besoin aussi vite. Mais quand on aime trop vite, trop haut, on a plus d'élan pour sauter dans le vide et s'écraser plus fort en bas. C'est comme ça. Anna Nina est allée goûter chez Charlotte. Je passe la prendre après la fermeture de l'école et une ultime tentative de réconfort de mon gros bonbon mou de collègue. En vain. Quand nous arrivons à la maison, nous apercevons son père encombré de draps, de couvertures et de coussins qu'il peine à garder en une boule unie entre ses bras. Il se dirige vers la roulotte, qui a trouvé une place au fond de la cour, sous le platane, pour l'ombre.
« On s'en va ?»
me demande Anna Nina, soudain inquiète. Je ne pense pas, il m'en aurait parlé.
Alors pourquoi il emmène tout ça dans la roulotte?
Peut-être pour ne pas encombrer la maison. Il doit avoir fini les travaux. Nous allons lui demander, c'est plus simple, tu ne crois pas? La petite attend à peine que j'ai garé ma voiture pour en descendre et courir vers son père. Il revient alors de leur habitation, les mains vides, et la prend dans ses bras. Il se serre rapidement car la petite se dégage de lui pour lui poser la question qui la taraude. Je les vois discuter quelques instants avant qu'Anna Nina ne parte en courant vers le jardin. « Vous partez ?»« Non, je réaménage juste notre roulotte. » »« Pourquoi est-elle partie en pleurant ?» Je lui dis que nous allions à nouveau y dormir, puisqu'elle est réparée. Nous nous sentirons plus libres et vous aussi. « Vous ne me dérangez vraiment pas à la maison. »« Quand même. »« Peut-être pouvez-vous lui laisser un petit temps de transition ?» Mais moi, j'aimerais réintégrer mon lit. L'un n'empêche pas l'autre. Laissez-lui la chambre à la maison et dormez dans la roulotte. Et qui veillera sur elle? Vous me décevez, Eric. Je dors dans la pièce d'en face. C'est peut-être sur vous que vous vous demandez qui va veiller. Pas du tout. Je suis un grand garçon. On fait comme ça? Depuis que je suis ici, j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup de choix. Vous me mettez devant le fait accompli, comme si je ne décidais plus de rien. Bien sûr que si, vous décidez. Oui, mais vos propositions sont tellement plus intéressantes pour Anna Nina qu'elle les préfère forcément. Ça en devient pénible. C'est peut-être le mieux pour elle? Vous insinuez que je ne sais pas m'occuper de ma fille? Mais non, je n'insinue rien. Je propose, j'essaie de voir ce qui lui fera du bien. Vous ne pouvez pas nier qu'elle est heureuse? Non, je ne peux pas. Donc je n'ai pas le choix. Si je l'oblige à venir dormir dans la roulotte, je passe pour le mauvais père qui fait les mauvais choix pour elle. Tout cela est très nouveau pour elle. Cela va se stabiliser, vous ne croyez pas? Je n'en sais rien. Je vais lui dire qu'elle peut garder la chambre à l'étage et que je dormirai seule dans la roulotte. Il flottait une ambiance mitigée pendant le repas du soir. Anna Nina n'osait pas trop montrer sa joie de rester dans la chambre à l'étage et son père ruminait la situation en même temps que sa viande de bœuf. Je ne sais pas pourquoi il veut réintégrer sa roulotte. Il est pourtant bien à la maison, et j'ai de la place. Peut-être pour me signifier que son séjour ici n'est que temporaire. Je décide de prendre le même risque que samedi soir, pour lui montrer qu'il y a finalement un intérêt à ce qu'il dorme seul dans son habitacle. S'il ne m'a pas renvoyé la première fois, il n'y a pas de raison pour qu'il le fasse ce soir. d'autant que maintenant je suis protégée. Et j'ai envie de détendre l'atmosphère. Je m'assure qu'Anna Nina dort profondément en allant l'aborder sous la couette. Elle a lâché son pouce de la bouche, donc toute résistance au sommeil. J'installe Croquette sur le tapis devant la chambre, comme garde du corps, et je ferme la porte d'entrée de la maison à clé. Il y a de la lumière chez Gustave. J'espère juste qu'il n'est pas en train de regarder par la fenêtre. Je n'ai pas envie qu'il sache ce que je fais de mes nuits. Je frappe au carreau de la petite porte à l'avant de la roulotte qui n'est pas vraiment dans le noir. Deux petites bougies seulement éclairent l'habitacle. Eric vient m'ouvrir. Il ne montre aucun signe d'émotion. Il me fait simplement entrer et me laisse passer, le regard presque fuyant. C'est comme si nous devions être muets quand il est question de partager un plaisir volé, puisqu'il sait que c'est de cela qu'il s'agit. Sinon, il m'aurait parlé. Il m'a juste demandé « Anna, Nina ?» Elle dort. Croquette monte la garde devant la porte de sa chambre. J'avance de quelques pas dans la roulotte, franchis l'espace cuisine, mais sans aller trop loin, par pudeur. Quand je me retourne vers lui, que je sens juste derrière moi, je n'ai pas le temps de voir ses yeux. Il a déjà collé ses lèvres sur les miennes en me saisissant le visage de ses deux mains. Nos bouches ne s'étaient pas rencontrées samedi. C'est par là qu'il souhaite commencer aujourd'hui. Sa langue se faufile et rencontre la mienne, avec laquelle il joue dans tous les sens. Il s'est collé à moi, et je sens à travers son pantalon léger qu'il a déjà envie. Mon entrejambe se met à l'unisson et je sens gonfler mon bouton d'or qui s'éveille sous ses doigts venus se poser là. Sa grande main remonte et se faufile sous ma chemise, saisit mon sein, mon petit sein, qu'il a rempli à peine. La deuxième vient faire de même avec l'autre téton déjà dur. Ses paumes sont rugueuses. L'homme travaille. La roulotte, les chevaux, par tous les temps. Il y a l'essentiel de son histoire dans ses mains. Les lignes de vie sont des lignes de front, et la douceur des paumes est devenue chez lui un champ de bataille. Elles sont rêches mais vivantes, et je sens leur présence dans ses moindres caresses, laissant sur leur passage un frisson désordonné. Il m'embrasse toujours furieusement. Il me disait être bien sans femme. Il semble bien avec aussi. Cependant, je ne suis pas là pour lui prouver quoi que ce soit. C'est même très égoïstement que je viens profiter de son corps. Pour mon plaisir à moi. Mais de le voir ainsi fougueux et pressé m'excite encore davantage. Il m'entraîne vers l'arrière de la roulotte, jusqu'au pied du lit. Je sens ses mains passer sous ma jupe légère et remonter le long de mes cuisses, doucement. Confusion des sens. À la fougue, il préfère maintenant la lenteur. Le changement de rythme est inattendu et presque cruel. Je le voulais déjà en moi. Et je sais qu'il va me falloir patienter. Je me laisse faire. Je ferme les yeux. Il accroche ses deux index à ma petite culotte et la fait descendre aussi lentement qu'il est venu la chercher. Il s'incline en même temps qu'il la retire et la laisse tomber par terre. C'est sa bouche qui remonte le long de ma jambe. Sa langue qui humidifie ma cuisse. Ses mains qui pétrissent mes fesses et les font exister comme jamais elles n'ont existé. Je suis debout, mes jambes prisonnières de ses bras. J'aimerais les écarter pour qu'il aille me lécher autre chose que la cuisse, et je ne peux pas. C'est lui qui décide, lui qui mène la danse. Il effleure quand même le sommet de mon clitoris au passage, et le suce quelques instants. Je chancelle. Je n'ai plus confiance dans mes jambes. Il a dû le sentir car il me fait basculer sur le lit, au milieu des coussins. La couche est moelleuse. Il s'est installé au sol et soulève mes pieds pour m'écarter les genoux. Enfin libre. Et puis, il me regarde. Il regarde mon sexe ouvert à la lueur de la bougie posée sur la table un peu plus loin. Il me regarde en approchant sa main et en la posant délicatement. Je dois briller tellement j'ai envie de lui. Il approche son visage et souffle sur moi en écartant mes petites lèvres entre le pouce et l'index. La sensation de fraîcheur est délicieuse et délicate. Il y trempe son doigt, comme on le ferait dans un pot de miel pour le goûter. Il me goûte et recommence. Je m'agrippe au coussin qui m'entoure. J'ai envie qu'il aille plus loin et il reste au bord des lèvres. La lenteur cruelle qui exacerbe mon désir. Son pouce caresse mon point sensible pendant que son majeur s'aventure dans l'obscurité moite. Je soupire d'enfin et de plus. Mon corps l'aspire pour le supplier d'aller plus profond, mais il repart. Je me tortille, mais il ne revient pas pour autant. Il laisse passer un long moment comme ça, avec seulement son pouce sur mon clitoris qu'il caresse délicatement. J'écarte un peu plus les cuisses pour lui signifier de venir. C'est sa langue que je sens alors, fine et ferme. Il la promène partout, avec une exquise légèreté. Le supplice de la plume. Un voluptueux supplice qui semble soulever ma peau vers lui tant j'ai envie de faire sauter la retenue et qu'il me prenne à pleine bouche. Mais c'est autrement qu'il décide de me prendre après s'être rapidement installé à ma hauteur. Sa ferme virilité est posée là, à l'entrée de moi. Et il me regarde. Comme s'il attendait le signal. Je me damnerais pour qu'il vienne. Il joue avec l'attente et je suffoque de l'espérer en moi. Ce sera rapide, je le sais. Je suis au bord de l'orgasme, tellement impatiente qu'il m'y emmène. Il saisit alors ma main droite et la maintient au-dessus de ma tête, cette main que j'utilise pour monter au plus haut. C'est lui qui s'en chargera. Il a décidé de tout mener. Il entre enfin, en me caressant. Il entre puissamment, de toute sa longueur, et un peu plus encore. Il impulse un rythme rapide et ne me laisse aucun instant de répit. Sa respiration rapide me stimule et me guide. Nous gémissons ensemble. Quelques secondes hors du temps, en soi mais avec l'autre, comme deux bulles de savon qui éclatent simultanément et mélangent leurs gouttelettes de plaisir avant de s'évanouir sans laisser de traces. Juste celle d'un soupir conjoint. Et puis repartir sans un mot, sans un bruit. Juste les doigts qui s'effleurent pour se dire à plus tard.